Et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval, une émission consacrée aux équidés et à leur univers. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, nous vous retrouvons pour notre émission annuelle, les Reines de Noël, afin de vous proposer des idées de cadeaux à mettre sous le sapin. Pour vous guider dans vos choix, nous sommes heureux de retrouver Nicole de la Maison du Livre à Rodez, une habituée de cette émission, qui vient nous parler de ses coups de cœur. Bonjour Nicole.
Bonjour Virginie.
Alors Nicole, je crois que cette année tu as sélectionné un certain nombre de livres pour nous. Par lequel commences-tu ?
Donc effectivement, mon premier choix va à Adieu Goulsari, qui est un récit qui a été écrit en 1966 par Chingi Aitmatov, qui est kirghiz. Et c'est un livre qui a paru en français en 1968 et qui a été rapidement épuisé. Et il vient d'être réédité dans une jolie collection qui s'appelle Nature Nomade aux éditions Transboréales.
Alors cet auteur, Nicole, il est célèbre.
Effectivement, il est célèbre. Il avait eu même un prix.
Alors j'ai vu que il est célèbre notamment pour son roman Djamila, hein, écrit en 1958, et j'ai découvert qu'il a été traduit par Louis Aragon en 1959.
Effectivement, c'est grâce à Louis Aragon qu'il a été connu et peut-être traduit en français.
Le cheval a un rôle important dans ce livre.
Effectivement, donc c'est l'histoire d'un berger qui s'appelle Tanabahi avec Goulsari et c'est une longue amitié entre deux.
Et ce qui se passe tout ça dans quel univers ?
Eh ben c'était à l'époque de l'ère soviétique et justement donc le Tanabahi et Goulsari seront séparés puisque ce cheval a une très grande renommée et ces gens du parti veulent le récupérer pour eux. Ce qui va être un souffre-douleur pour Tanabahi, donc il va être très malheureux de se séparer de ce cheval.
Alors j'ai vu que en fait le grand-père de Chingiz Aitamov était lui-même un berger kirghiz, un berger nomade.
Oui, exact. Et il s'est inspiré, je pense, donc de la vie de son grand-père pour écrire ce récit.
Et donc le héros de ce récit, c'est aussi bien donc le berger que le cheval Goulsari, qui veut dire bouton d'or en kirghiz.
C'est ça.
Alors, j'ai vu aussi, Nicole, Aitamov a lui-même travaillé sur la traduction de ce livre avec sa traductrice.
Oui.
Qui s'appelle Lily Denis. Et en fait, c'est une super idée d'avoir réédité ce livre qui n'était plus disponible depuis longtemps, je crois.
Effectivement, alors que c'est un livre qui pourrait être écrit actuellement, parce que c'est quelque chose qui est très frais, qui est... évidemment, on découvre l'ère soviétique et tout ce qui se passait à ce moment, mais c'est un livre très profond et très, très beau. Et sur les paysages aussi, quoi.
Oui, on a une description. Et tu as raison de bien préciser l'ère soviétique, parce qu'on parle de kirghiz, de toute une culture, mais Chingi Aitamov est considéré comme un des écrivains, des plus grands écrivains de l'ère soviétique. Même s'il défend ses racines, il a d'ailleurs eu le prix Lénine, qui est l'équivalent russe du Nobel.
Voilà, c'est ça.
Alors j'ai vu aussi que le livre était précédé d'une présentation d'une spécialiste, Jacqueline Rippert, qui vit depuis une décennie en Kirghizie, où elle se consacre à la sauvegarde de la race des chevaux locaux, ainsi qu'à la réhabilitation des traditions équestres de ce petit pays d'Asie centrale. Et d'ailleurs, Jacqueline Rippert appartient à la Société des explorateurs français et préside l'Association française du cheval kirghiz. Et elle a été la première personne étrangère à recevoir à Bichkek le prix de la présidence de la République pour sa contribution à la promotion de la culture kirghiz.
Je vois que tu t'es très bien documentée.
Et la postface est écrite par René Kania, écrivain et photographe spécialiste de l'Asie centrale, qui réside à Bichkek, en Kirghizie, d'où il rayonne dans tout le Turkestan. Donc on a vraiment affaire à des gens passionnés qui viennent soutenir ce texte d'Aitamov que nous conseillons à tout le monde. C'est pas trop triste ?
Un petit peu, si, mais c'est la vie, quoi. C'est la vie. C'est la vie, surtout donc à cette époque de l'ère soviétique.
Mais enfin, ça reste une belle histoire entre un homme et son cheval.
Oui, tout à fait.
Alors, quel est ton deuxième choix, Nicole ?
Alors, mon deuxième choix, donc là, on va partir dans un pays voisin, c'est en Mongolie. Donc, l'ouvrage s'appelle « De la Mongolie à la Sibérie à Samarcande ». Et donc là, ce sont deux journalistes, Tioul et Bruno Morandi, qui sont photographes et qui vont nous faire découvrir la Mongolie à travers de leurs magnifiques photos. Sachant que Tioul, elle, est mongole, donc elle a vécu toute son enfance en Mongolie et elle parle évidemment la langue, ce qui est beaucoup plus facile pour entrer en contact avec les gens.
Oui, j'ai vu qu'elle, en fait, c'est assez extraordinaire. Elle est venue, elle parle d'avoir vécu avec sa grand-mère, hein, sous la tente, une vie nomade. Et cette jeune femme est venue faire des études à Paris. Et elle parle un français absolument sans accent.
Je l'ai écoutée dans un petit reportage et j'ai pareillement été impressionnée comme elle parle bien le français.
Ah oui, c'est incroyable. Et donc, effectivement, comme tu le soulignes, du fait qu'elle soit mongole, elle a certainement facilité l'approche de ces peuples nomades qui quand même sont assez, qui prennent un peu de distance quand même avec les étrangers.
Ben oui, c'est ce que souligne son compagnon Bruno, qui dit sans elle, donc on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait, rencontrer les gens où les gens se confiaient donc à eux. Évidemment, bon, il y a déjà le barrage de la barrière de la langue, et puis le fait qu'elle soit mongole, ouais, ça a été plus facile pour eux.
Alors, ce sont des photos, malheureusement, la radio ne permet pas de vous partager ça avec vous, mais c'est des photos absolument somptueuses, Nicole.
Ah oui, oui, c'est la Mongolie.
Et dans toute sa beauté.
Dans toute sa beauté, je dirais toutes les traditions. Évidemment, là, bon, j'ai mis plus l'accent sur les chevaux, puisqu'on est dans une émission sur les chevaux. Mais il y a après le côté un peu historique avec Gengis Khan. Et puis après, leur vie, quoi. Leur vie avec les troupeaux, avec les fromages qu'ils font, la nourriture, enfin tout, quoi.
Alors oui, donc forcément les Mongols, hein, c'est le pays des nomades, hein, le pays des steppes, hein, et le cheval est omniprésent dans leur culture et omniprésent sur ces photos.
Oui, 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 c'est sûr. Ah ben, dès l'âge de 4-5 ans, ils font du cheval.
On dit même qu'ils savent monter à cheval avant de savoir marcher.
Tout à fait, voilà. Ouais, ouais. D'ailleurs, on peut voir dans la grande course du Nadan, qui est leur grande course nationale, on voit des enfants qui ont 4-5 ans quoi, sur les chevaux et qui sont extraordinaires.
Oui, et puis ils encouragent beaucoup les enfants à monter parce qu'en plus, c'est des poids légers. Donc, dans les courses, c'est des jockeys qui ont plus de... qui allègent le poids du cavalier sur la selle.
Voilà. Comme tu dis, ils savent monter à cheval avant de savoir marcher.
Et donc là, dans le livre, on peut les voir à côté de leurs chevaux, à cheval, pousser leurs troupeaux aussi, hein.
Oui, même si maintenant, comme partout, hein, les motos sont là aussi et les chevaux sont un peu moins peut-être présents pour le quotidien. Mais et ils sont bien conscients qu'ils sont peut-être les dernières générations à vivre comme ça, quoi.
Je crois que c'était aussi un des buts des deux photographes, c'est d'immortaliser ces traditions qui sont à un moment charnière de l'histoire, puisque comme tu le dis, la civilisation arrive peu à peu. Et pourront-ils conserver longtemps ces traditions, les transmettre à leurs enfants? C'est toute
la question. Puis les jeunes veulent vivre en ville, même si souvent la vie est aussi compliquée en ville. Mais après ils partent faire des études et des fois c'est compliqué de revenir nomade.
Alors on va quitter 5 minutes la Mongolie pour cette fois partir pour New York et l'Irlande en écoutant A Fairy Tale of New York des Pogues avec Kirsty MacColl en hommage au chanteur Shane McGowan qui vient de nous quitter.
It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1.
It's years from me and you. So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true.
You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome.
You were pretty queen of New York City.
When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the junk they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day. Dripping that bed. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours. I pray God it's our love.
The boys of the NYPD choir still singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day. Could have been someone.
Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you.
I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus still singing.
And the bells are ringing out for Christmas Day.
Alors nous revenons encore un peu en Mongolie, hein, parce que ce livre nous a beaucoup transporté, si on peut dire, Nicole.
Oui, tout à fait. Surtout que moi, c'est un pays que j'adore et donc
que
j'ai
tu
eu,
as vu, d'ailleurs.
Et que j'ai eu la chance d'aller. Bon, l'été, hein, donc je n'ai pas connu les moins 50 ou les moins 40. Mais c'est un pays magnifique et puis les gens sont extraordinaires, quoi. Nous, on a été accueillis dans des yourtes alors qu'on ne connaissait pas les gens. C'est extraordinaire.
Et donc, est-ce que tu trouves que donc, du coup, ce magnifique livre reflète un peu ta perspective de la Mongolie ?
Ah oui, tout à fait. Oui. Il y a des photos, donc je retrouve. Bon, malheureusement, la Mongolie est un grand pays et donc je n'ai pas tout fait, loin de là. Mais oui, c'est un très très beau livre, oui.
Et un livre également plein de couleurs, c'est ça aussi qui frappe.
C'est la Mongolie, c'est la ça. Mongolie. Hein, c'est plein de couleurs. Des vêtements splendides qui mettent pour leur fête, notamment, puisque bon, maintenant ils sont habillés un petit peu comme tout le monde, surtout en ville, parce que en campagne, bon, ils ont quand même leur traditionnels vêtements. Mais oui, c'est magnifique, oui.
Donc les couleurs des vêtements, le bleu du ciel, le vert de la steppe, les aigliers aussi qui chassent avec leurs aigles, tout un univers extraordinaire qu'on retrouve donc dans ce livre. Tu nous redonnes le titre ?
Alors c'est La Mongolie, de la Sibérie à Samarkand, et c'est aux éditions Ozoni.
Alors je crois que tu as un troisième livre à nous proposer.
Alors le troisième livre est surtout un livre de photos, donc il s'appelle Les chevaux, portrait intime. Donc, ce sont des photos de Fabio Petroni. Donc des photos magnifiques, hein. C'est un livre qui a très peu de texte, mais on voit des chevaux comme je dis rusés, timides, agressifs, fiers, indolents, curieux, doux. Le photographe a su se rapprocher de ces chevaux et donc où émane cette proximité qui se ressent à travers les photos.
Oui, et on peut même, je pense, parler de véritable portrait, parce que je crois que c'est comme ça qu'il a abordé son travail. C'est un grand format, hein.
C'est un grand format, oui. Donc les photos sont pleines, c'est voilà. Des pages pleines. Donc,
pages pleines, fond noir. Mm-hmm. Hein,
fond noir, oui. Mm-hmm.
Et sur très beau papier brillant. Et là, on a vraiment à faire ce qu'on appelle un beau livre hein, également. Et ce qui frappe, c'est justement, c'est que ce n'est pas des photos de chevaux, on va dire, dans leur univers naturel, mais c'est vraiment des portraits. Des portraits où on peut voir, comme tu le disais, les chevaux avec toutes leurs expressions, leurs oreilles pointées, leurs grands yeux grands ouverts, et tout ça, de très gros plans d'ailleurs. Hein.
Oui, avec une précision exceptionnelle, je trouve, sur les chevaux. Ouais.
Et c'est vrai que c'est un livre qu'on a envie de feuilleter encore et encore en s'arrêtant sur un détail, des chevaux aussi de races différentes. Hein,
Il s'est intéressé
à des chevaux très, très différents. Donc, ce livre est paru hein, aux éditions
de l'Imprévu.
Voilà. Nous avons un peu fait le tour de ce que tu nous proposes. Moi, je vais rappeler à nos éditeurs que cette année a été assez riche en publications. Donc, vous pouvez également vous acheter hein, ou offrir les livres que nous avons présentés cette année. Alors, je vous rappelle que si vous avez envie de vous replonger dans le Paris du 19e siècle, à l'époque de François Baucher et du dressage, du cirque, eh bien, n'oubliez pas le très beau livre consacré à François Baucher avec les magnifiques dessins de Marie Nocédic hein, qui est paru aux éditions Vigo et dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Au début du mois d'octobre, nous avions parlé également du livre Lorenzo Black and White hein, consacré à l'artiste équestre Lorenzo avec de magnifiques photos en noir et blanc. Du photographe suisse Heini Hens hein, qui nous entraîne dans le monde de Lorenzo hein, que nous pouvons découvrir en spectacle et en coulisses en Camargue avec ses chevaux. Être femme, jockey et entraîneur est un vrai défi, c'est ce que nous a raconté Catherine Scanlan dans son très beau roman Cavalier seul, où nous découvrons Sonia, une petite fille passionnée, désireuse de poursuivre son rêve, quoi qu'il lui en coûte. Ce livre, qui a été un grand succès littéraire aux États-Unis, a été très bien reçu par la presse française et publié aux éditions La Croisée. J'ai oublié de vous dire que Lorenzo était publié aux éditions Actes Sud. Et puis, nous vous avions présenté, juste avant les vacances d'été, La conquête du cheval, une histoire de génétique de Ludovic Orlando. Alors, le grand chercheur hein, nous entraîne dans une quête sur l'origine du cheval, à laquelle les découvertes scientifiques liées à l'analyse de l'ADN nous apportent des réponses. Un livre absolument passionnant, qui a également toute l'enquête policière, et lui est paru aux éditions Odile Jacob. Voilà Nicole, je crois que nous pourrons en profiter pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à nos auditeurs, que nous leur avons donné pas mal d'idées pour remplir leurs chaussettes ou leurs chaussures au pied du sapin de Noël. Merci Nicole.
Merci Virginie.
Et puis, très bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Messagers du Cheval.